Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.
Globe de la Presse, un nouveau rendez-vous sur votre radio Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers cette émission. Michel Tomega est à la commande technique. Jérôme Akoutia s'occupe de la mise en ligne. Les radios partenaires qui reprennent Globe de la Presse sont Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokoré, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Nyantougou et Radio Courtoisie à Dapan. Émission accessible également sur les plateformes digitales de Canal FM, notamment Facebook, YouTube et canalfm.com. Sans oublier chez nos partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Autour de la table ce jeudi, Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour, vous, bonjour les amis branchés sur Canal FM.
Ambroise Pondio du journal des Guardianes. Bonjour.
Oui, bonjour Fuseni, bonjour les confrères ici présents, bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM.
Nous espérons, et l'homme Atisogbe du journal La Nouvelle Tribune, pour nous accompagner dans cette émission, un acteur politique bien connu de la scène, j'ai nommé Dr. Georges William Cuisson, président du parti Santé du Peuple. Bonjour docteur.
Bonjour Monsieur Saïbou.
Moi-même, je me nomme Fuseni Saïbou. Le débat démarre dans un instant. Ambroise Pondio, rebonjour. Ambroise.
Oui, bonjour.
Voilà,
bonjour.
Nécrologie, c'est cette semaine, plutôt ce week-end, que notre maman, notre sœur, Madame Pondio, sera inhumée.
Oui, c'est Mademoiselle Pondio, Madame ex, Madame Ahiagnon. Mais on l'appelle Madame Ahiagnon, Lomao, Claudine Pondio, Ahiagnon. On l'inhume le samedi. Donc, les obsèques sont prévues pour ce week-end, le vendredi déjà. À 18h, il y a la veille de prière au collège protestant de Lomé, Tocoin, ici. Et il y aura la chapelle ardente à partir de 5h du matin le samedi, pour ceux qui veulent voir pour la dernière fois le corps de Claudine. 5h à 7h, 7h30, le culte d'enterrement commence toujours au collège protestant de Lomé. Et ensuite, à la fin du culte, on amène Claudine dans sa dernière demeure à Yokwe, à Plaou Sabado, et on revient au collège protestant pour recevoir les salutations d'usage. Et donc, c'est ça les programmes des obsèques de ma grande sœur, Claudine Ahiagnon Lomao Pondio.
Vraiment, c'est une perte pour le pays, Michel, qu'elle repose en paix, n'est-ce pas?
Oui, qu'elle repose en paix. C'est une dame qu'on voyait le plus souvent aux côtés de la présidente de la Hachkroun. Elle a contribué à sa manière à piloter donc les travaux de cette institution. Et aujourd'hui, c'est avec regret que nous allons assister donc à l'inhumation donc de cette dame qui, ma foi, devait continuer à servir son pays. Mais comme Dieu en a décidé autrement, nous nous plions à sa volonté.
D'accord. Qu'elle repose en paix et que tous nos disparus reposent en paix. Nous démarrons avec un sujet sur la santé pendant la pandémie de COVID-19 pour savoir si un nouveau variant est sur notre sol. Il fallait envoyer des prélèvements pour analyse dans les pays occidentaux parce que le Togo ne dispose pas de l'équipement adéquat. Vous vous rappelez, nous avons eu plusieurs sortes de variants, Delta, Omicron et autres. Eh bien, c'est désormais possible de faire ce genre de test au Togo. L'université de Lomé a inauguré ce mardi l'unité de génomique des pathogènes émergents et réémergents du laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie. Ce laboratoire est destiné à aider les chercheurs à mieux identifier les agents pathogènes avec plus de précision. Projet réalisé avec le soutien de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, et l'OMS, Organisation mondiale de la santé. N'est-ce pas une avancée notable en matière de recherche au Togo, Ambroise Kondjo?
Bon, c'est une avancée. Je crois que on s'y attendait depuis que le Togo s'engage dans cette voie avec les différentes manifestations des agents de santé il y a de cela quelques années. On criait aussi de part en part par rapport à certains instruments qui manquaient là-bas dans certains hôpitaux, grands hôpitaux du pays, notamment Sylvanus Olympio. La dernière fois, on a appris qu'il y a eu du scanner. Et donc, s'il devait y avoir un laboratoire qui s'engage dans la recherche pour pouvoir dénicher les maux dont on peut être victime dans les mois et les années à venir, je crois que c'est une très bonne chose. On ne peut que saluer. Maintenant, quant à ce pourquoi ce laboratoire va être créé, tu parles d'un nouveau virus, tout ça. En tout cas, moi, j'ai toujours dit que l'Africain est immunisé depuis son bas âge, je l'ai dit la dernière fois ici. Déjà entre 0 et 1 an, on est dans le sol, dans le sable, on est immunisé. Mais il n'en demeure pas moins que certains vaccins, le BCG qu'on a fait, moi j'étais au CP2, il y en a d'autres vaccins qu'on a eu à faire, ont sauvé des vies. Il faut le reconnaître. Avant que certains ne créent des polémiques. Mais néanmoins, je crois que c'est un laboratoire qui, si ce laboratoire sera réellement équipé, bien équipé, pour pouvoir seconder celui de Dakar, je crois que ça pourrait aider le Togo à avancer.
D'accord. Alors, l'université de Lomé serait la première dans la sous-région à avoir ce type de laboratoire. En fin de compte, ce serait un laboratoire qui va profiter à d'autres pays de la sous-région, n'est-ce pas?
Tu dis que c'est l'université de Lomé qui a ça, la première dans la sous-région, c'est ce que tu dis?
C'est ce que nous avons lu.
Oh, bon, ça dépend. Hein. Il y en a à Dakar, en Côte d'Ivoire, il y a des laboratoires de cette gamme. Si je ne m'abuse. Hein.
Est-ce qu'elles sont installées à l'université? Nous parlons de l'université.
Bon. En tout cas, c'est sur le territoire togolais. Ce n'est pas parce que c'est à l'université qu'on doit quand même faire la singularité. Non, c'est au pays. Et c'est avec le soutien des bailleurs, des partenaires, tu l'as cité. Et donc, moi, je dis qu'on aurait pu avoir même des laboratoires comme ça beaucoup plus tôt. C'est peut-être le mal de Covid nous a quand même titillé la tête. Il y a des choses qu'on traînait à faire et que maintenant... on est quand même décidé à aller. Je trouve que ce n'est pas mauvais. Si tant est que ça peut aider quand même à faire face à certaines situations. Tu disais avant, avec les virus de Covid, il fallait envoyer les tests ailleurs. Bon, désormais, ça veut dire que nous avons cette possibilité de le faire sur place, si ce laboratoire a cette capacité. Mais au regard de la situation, c'est des trucs qu'on devait faire depuis. C'est une question de vision, de d'orientation. Ce n'est pas les moyens qu'on a mis là-bas. Je pense qu'on aurait pu aussi demander ça il y a de cela 5 ou 10 ans à ces bailleurs-là qu'on pouvait avoir aussi. Un laboratoire de ce genre. Donc, dans tous les cas, je pense que le mal de Covid-19 nous a vraiment
aidé dans un sens.
Oui, un mal pour un bien, j'allais dire, parce que aujourd'hui, c'est clair, nous avons un laboratoire de ce type qui peut quand même aider à régler un certain nombre de problèmes liés à la santé. On ne peut dire que merci. Donc à ceux qui ont, en tout cas aux partenaires qui ont quand même accepté d'accompagner le Togo. Parce que si je le dis, quand vous prenez par exemple les engrais, aujourd'hui on parle qu'il faut maintenant monter une usine de création, de fabrication d'engrais. C'est des trucs qu'on devait faire depuis, puisque nous avons les phosphates. Et après 50, 60 ans presque, et qu'on est quand même, c'est maintenant qu'on a l'idée, mais bon, il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est pourquoi nous devons anticiper sur un certain nombre de choses. Et donc, ce laboratoire, on aurait pu l'obtenir ou bien le mettre en place depuis des années.
D'accord.
Oui.
Et puis, Ambrace Pondio, ce laboratoire est à l'actif de l'actuel président de l'Université de Lomé, le professeur Komla Dodi Kokoroko, qui a déjà opéré beaucoup d'innovations sur le campus depuis son arrivée à la tête de cette université. Mais quand c'est bon, il faut le dire, n'est-ce pas?
Oui, je crois que, vous savez, nous, presque tous ici, on a fait l'Université de Lomé. C'est vrai que c'est vieux, hein, c'était dans les années 98, 99, 2000, l'université n'était pas comme ça, pour commencer par là. Il y a 5 ans ou 3 ans, vous allez à l'université, vous allez vous perdre. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'université. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Nul n'est parfait dans cette vie. Et quand on veut faire le développement, il y a toujours des grincements dedans, à gauche, et il y a de bonnes choses à droite. Je crois qu'on préfère prendre les bonnes choses. Et donc, je crois que le monsieur a une vision. C'est un homme de vision. Bon, j'ai pas l'habitude de jeter des fleurs aux gens, mais j'ai constaté que bon, tout le monde n'est pas né comme ça. C'est un monsieur qui ça peut, il peut étonner beaucoup de gens, hein, il peut aussi énerver des gens. Mais si ce que la personne fait est une bonne chose, moi je suis désolé, on applaudit et on encourage à continuer dans le même sens. On s'en fout de ceux qui en vivent, même au sein de certains rôles. Parce que si on en vit, je suis désolé, on ne peut que envier ceux qui font du bien. Mais envier la personne de façon positive, ça c'est un premier point. Le second, c'est que il y en a d'autres aussi qui peuvent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire, je ne comprends pas, ils ne veulent pas. Ils ont aussi cette capacité-là de le faire, même s'ils n'ont pas la même vision que Kokoroko, mais ils ne veulent pas le faire. Mais le mal, c'est que quand lui le fait, les gens, l'homme étant comme ça, on va chercher à l'envier. Kokoroko est sur son terrain. Et en tant que juriste, je crois qu'il fait ce qui est bien à ce pays. C'est-à-dire que ce monsieur qui est au niveau du département de l'enseignement primaire secondaire, technique, tout ce qu'il a eu à faire aussi, et ce qu'il vient de faire à l'université de Lomé, en dehors de ce qu'il a déjà fait, les amphithéâtres, et comment il a embelli l'université, les réformes qu'ils sont en train de faire, que ce soit au niveau administratif, infrastructurel et autres, je crois que, sincèrement, il n'y a pas son pour le moment. C'est pourquoi je dis qu'il y en a, peut-être qu'il peut le faire, mais ils n'ont pas peut-être une vision. Mais lui, certainement qu'il a une vision. Il faut lui juste donner l'accorder l'entière confiance. Je crois qu'il va faire encore. Il va supprimer encore des gens sur d'autres terrains.
D'accord.
Il fait peut-être 5 ou 10 ans, ou bien 6 ans en enseignement primaire. Il fait 5 ans ou 10 ans à l'université. On l'emmène ailleurs pour aussi booster. Pourquoi pas un premier ministre pour coordonner tout ça là et mettre au pas, pas forcément mettre au pas, mais avoir une feuille de route qu'on revisite chaque mois pour voir ce qui a été fait. Parce qu'il y a des ministres, sincèrement, qui dorment dans le gouvernement. Donc, Fonia Simbe, certainement, ne s'est pas trompé de la personne.
D'accord. D'accord. Merci. Nous passons à un autre sujet. Les citoyens togolais peuvent aller, enfin, ceux qui ont pu se faire recenser, peuvent aller consulter.
Non, tu sais, moi, je voulais ajouter un truc. Vous savez, pour réaliser quelque chose, il faut quelqu'un devant. Mais c'est en équipe. C'est-à-dire, quand vous vantez seulement une personne devant, c'est pas bien. C'est comme vous ignorez les autres qui accompagnent la personne. Je pense que c'est l'idée qui est qui a milité, en tout cas qui a guidé la mise en place donc de ce laboratoire, c'est une bonne idée. Mmh. Ça doit venir de quelqu'un. Mais bon, c'est une vision globale. Ce n'est pas, on ne peut pas mettre ça à l'actif d'une personne singulièrement comme ça. C'est pas bien. Si on le fait, c'est comme on est en train de casser la dynamique du gouvernement.
Mais c'est un guide.
Non, oui, on ne casse pas. Je veux dire tout simplement que c'est une dynamique qui a contribué donc à la mise en place. On ne peut pas singulariser une personne, dire que c'est la personne qui est trop bien, Non, il faut voir les choses d'une manière globale. Vous voyez, ce n'est pas l'argent de sa propre poche. Nous l'avons dit, tu as dit, moi je n'ai pas lu l'article. Tu as lu l'article tout à l'heure. C'est qu'il y a des partenaires. Il faut quelqu'un, je dis souvent, pour faire une chose, il faut quelqu'un devant. Là, ça se comprend. Mais jeter les fleurs tellement à une personne, alors qu'il y a une dynamique autour de tout ça, là, c'est ça, je veux les relever, c'est tout simple. Il n'y a pas de polémique là.
Je crois que il n'y a même pas de polémique. Hein. Parce que ce qui est bien, il faut le dire. C'est ce que nous, on est en train de dire. Si c'est mauvais, on le dit aussi. C'est-à-dire que avant qu'il y ait même une équipe là, il y avait cette équipe-là. Quand je prends le cadre d'un ministère, par exemple, le ministère de l'enseignement primaire secondaire, il y avait des gens. Il y avait le secrétaire général, il y avait le directeur de cabinet, il y avait tout ça là. Mais il y avait d'autres ministres qui sont passés. Mais tout ce qu'il y a comme réforme aujourd'hui n'était pas fait par rapport. C'est là où la différence se trouve. Il y avait un président d'université. Mais si on dit qu'il y avait un président d'université, mais pourquoi tout le changement infrastructurel qui s'est produit à l'université, cela n'a pas été fait il y a 10 ans? C'est parce qu'il y a un nouveau qui est arrivé. Moi, je ne le qualifie pas pour qualifier, vous appréciez pour apprécier. Moi, je vais le faire et je m'en tiens au fait. Mais nous, on a eu à tirer sur Cocoloco ici. Mais aujourd'hui, s'il fait bien, on le dit. Parce qu'il a une vision. Et c'est la vision-là qu'il est en train d'implémenter à ceux qui sont autour de lui, qui étaient là avant, mais qui ne l'avaient pas fait.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Nous sortons de ce sujet. Alors, les citoyens togolais, comme je le disais, peuvent aller consulter les listes électorales dans les centres de recensement et de vote. Il ne leur reste plus qu'une journée pour effectuer tous les recours nécessaires. Ils pourront, par exemple, signaler des cas d'électeurs indûment inscrits ou radiés, entamer une procédure de réclamation ou encore signaler des cas de décès intervenus après la clôture des opérations d'enrôlement. Ouara les vainqueurs, titre, affichage des listes électorales, 48 heures pour effectuer tous les recours nécessaires. Alors, Michel Tchadja, l'épurement du fichier électoral est aussi une phase importante et nous y sommes.
Ah oui, je pense selon... un communiqué rendu public par le président de la CENI, il y a de cela quelques jours, et les Togolais sont appelés à partir de ce jour, je pense, c'est le 20, aujourd'hui c'est le 20, oui, à aller consulter.
Ah, c'est à partir d'aujourd'hui.
Oui,
donc ils ont encore demain, c'est 24 heures.
Ouais,
ils ont encore
48 heures.
48 heures,
oui,
48
pour heures. Deux jours, donc, deux pour... jours. Et permettre aux gens d'aller vérifier si réellement ceux qui se sont donc prêtés à l'exercice donc du recensement, s'ils ont sur la liste leur nom, sinon pas leur nom, s'il y a des recours éventuels, nous l'avons dit, ils peuvent le faire dans ce délai-là pour que la CENI puisse avancer, puisqu'il y a un chronogramme bien ficelé par cette institution, pour que la CENI puisse avancer dans ses travaux et éliminer les doublons et tout ça là, et pour avoir un fichier fiable avant de peut-être permettre au gouvernement de fixer éventuellement les futures dates pour les élections locales et régionales si tant est que tout est fin prêt.
D'accord. Donc, les électeurs, les potentiels électeurs inscrits doivent faire vite parce que c'est deux jours, aujourd'hui et demain.
Oui. Potentiels électeurs et candidats également. Parce que les candidats ont leur nom aussi sur les listes électorales. Donc, c'est ça.
Effectivement. Ambroise Mondio, est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour les partis politiques de faire des vérifications de ce fichier électoral pour éviter des problèmes après?
Oui, je crois que c'est une occasion pour les formations politiques d'appeler leurs militants à y vérifier, puisqu'il ne s'agit pas des partis politiques, mais des militants qui sont les électeurs dans les différentes zones, à aller vérifier leur nom sur la liste qui a été affichée. Il se fait qu'il y avait déjà des couacs par rapport au nombre de personnes enrôlées lors du recensement qui avait été évoqué et dénoncé. Il y a eu même des demandes, des réclamations pour pouvoir reprendre dans certaines zones, notamment la zone 1, où les dysfonctionnements étaient relevés, et par la CENI elle-même, par les partis politiques de l'opposition et par le gouvernement au cours d'un conseil des ministres. Malheureusement, cela n'a pas été repris. Et ce qui est mal dans ce sens, c'est le fait de soulever une règle internationale pour pouvoir opposer à ceux qui, de droit, devaient s'inscrire sur la liste électorale telle que le réclame la Constitution à son article 11 et le Code électoral à son article 144. Cela n'a pas été fait. Et nous, on avait titré par le passé que Yago Dabré a violé les deux arsenaux juridiques qui encadrent les prochaines élections. Et donc, je me dis que vaut mieux tard que jamais. Mais qu'à cela ne tienne, si c'est tel est le plat qu'on présente aux populations, je crois que il faut que ceux-là, au moins, qui se sont fait enrôler il y a de cela quelques semaines, puissent aller vérifier réellement il y a leur nom. Parce que les doublons aussi ont été déjà apurés, les 91 000, je crois, doublons ont été apurés il y a de cela quelques temps. Cela ne veut pas dire que ceux-là dont leurs noms ont fait l'objet de doublons seront supprimés. Non. Que tous les Togolais qui se sont inscrits et qui ont une carte aujourd'hui aillent vérifier si réellement leur carte ou leur nom est apparu dans le centre de vote où ils se sont inscrits lors du recensement. Parce que c'est important. Parce que le moment où, je me rappelle très bien, au cours d'une élection où on a mélangé les noms, les gens qui se sont inscrits à Toko Solidarité se retrouvaient à Yokoué. Ceux qui sont retrouvés à Baguida se retrouvaient à Balepedo. Donc tout ça là, il faudrait. C'est le moment ou jamais de vérifier ça pour éviter que ces choses-là se produisent.
D'accord. Michel Tchadia, est-ce que cette phase ne met pas définitivement fin à l'espoir de certains partis politiques par rapport à une possible prorogation du recensement dans la zone 1?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, la CENI avance. Et si vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, le comité de dialogue,
CPC,
CPC ou
le cadre permanent
de dialogue, de concertation. Se réunissent périodiquement au ministère de l'administration territoriale. Je pense que dans lequel certains partis avaient émis le vœu de voir reprendre les activités de recensement dans la zone 1. Je pense que cette demande a été rejetée, rappelez-vous. Et donc, c'était peut-être l'espoir à ce niveau-là. Et vite fait, on a compris que la CENI avance et que, sauf au cataclysme, bon, je ne vois pas à partir de cet instant comment on peut revenir. Et donc, ce qui est sûr, la CENI avance, bon, ça veut dire que peut-être ceux qui n'ont pas pu s'inscrire vont attendre quelques années encore ou quelques mois encore avant peut-être de voir leur nom inscrit au cours d'une prochaine opération de recensement. Voilà.
Je dois préciser que la CENI avance, d'accord. La CENI est le métronome donc de l'organisation des élections. Mais la CENI ne fonctionne pas pour elle-même. La CENI fonctionne pour les Togolais, je suis vraiment désolé. Et que la CENI fonctionne sans s'en rendre compte qu'elle bosse pour les Togolais. Là, c'est là où moi ça me pose un sérieux problème. Les élections donc pour lesquelles on est en train de recenser les gens, on a fait les cartes aux gens et qu'on est en train de vouloir demander aux gens de les vérifier. Mais ça se passe quand? Quelle est la date de ces élections? Quand je me couche, je me pose la question, mais ok, vous voulez organiser les élections, mais attendons, les élections législatives, on ne connaît même pas le chronogramme. C'est une date qui est réglementaire, parce que on a déjà fait 5 ans. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on doit tout faire pour organiser les élections législatives. Maintenant, les régionales dont on parle, on attend quoi pour nous faire un chronogramme, pour publier un chronogramme, que les Togolais psychologiquement sachent que dans tel mois, nous allons aller aux élections. Là, je crois que nos amis qui sont au pouvoir sont en train de tâter le pouls
de voir comment les choses vont se passer d'abord, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de cinéma, hein. Ils ont même des réalisateurs. C'est-à-dire que quand on a tout ça là, tous ces gingembre, le cube, tout ça réuni, on sait comment maintenant se dé. Mais les Togolais, eux, ils n'attendent pas ça. Eux, ils veulent avoir une date. Un, pour les élections législatives, de deux, pour les élections régionales. Si tant est que les gens vont y aller. Maintenant, si les gens vont y aller, comment doivent-ils s'y prendre et programmer que je dois être au pays, surtout pour ceux-là qui sont à l'étranger, je dois être au pays pour pouvoir voter. Parce que je suis arrivé à faire ma carte, il faut que j'ai une date pour que je puisse programmer mon retour pour aller voter. Et ceux-là même qui sont à l'interne, et savoir comment s'y prendre. Oh, personne au Togo ne sait, à l'heure où je vous parle, on fait du bobo, du vous-êtes là, personne ne sait quand on va aux élections. Je crois que ce n'est pas normal.
D'accord.
Et moi, j'ai toujours dit, pour finir, j'ai toujours dit que quand vous êtes au pouvoir, faites bien pour que demain, vous laissiez des traces. Mais quand vous ne faites pas bien, ça retourne toujours contre soi.
D'accord.
Pour le moment, son pouvoir. Quand les gens sont dans le miel, ils ignorent ce qui se passe. Hein. Mais quand ça rattrape là, comme en Guinée là, c'est là où les gens se disent, ça arrive aussi à ceux qui sont dans le miel, ça va arriver.
D'accord, merci.
Donc, autant corriger les choses aujourd'hui que de vouloir perdurer, que de vouloir jouer sur la montre et rouger la psychologie et le ménage ou le nerf des Togolais.
D'accord, merci Ambroise. Pour sortir, Michel Tchadja.
Non, je pense que Ambroise a raison en partie. En principe, pour les élections législatives, par exemple, il doit avoir un calendrier républicain. Parce que c'est le monde. On sait à quel moment on a été aux élections en 2018. Et selon les constitutionnalistes, on doit savoir quelle est la date à laquelle nous devons aller aux élections législatives. Ça, on n'a pas besoin de gymnastique pour ça. Ça dit que si on est bien organisé, c'est valable, comme ça, ça se... Et les gens savent les dates, les gens connaissent d'avance. Et bon,
ça permet aux partis politiques aussi de se préparer.
Sur le terrain. Bon, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si on doit tenir compte du calendrier républicain, c'est qu'on devait faire les législatives avant la fin de cette année. Mais à l'heure où vont les choses, beaucoup de Togolais s'interrogent. Parce que si vous vous rappelez, en 2018, il y a des discours où on disait il n'y aura pas une journée de plus pour faire les législatives là. Rappelez-vous, il n'y aura pas une journée. On était carré sur la date des législatives de 2018. Alors, cette fois-ci, on a l'impression que bon, on ne dit rien. Vous vous rappelez, il y a nos confrères qui avaient demandé, qui avaient posé la question au ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, lors, en tout cas, du traditionnel conseil des ministres où on devait faire face aux médias. Quelqu'un a demandé, il y a un confrère qui a demandé, mais c'est quand chose la date des élections. Et le ministre avait répondu à l'époque que, bon, c'est au vu de l'évolution des travaux de la CENI que le gouvernement... Non, cette réponse n'a pas convaincu. Parce que on doit le savoir, la CENI doit avoir un chronogramme clair et en fonction de ça, on doit savoir quel jour les Togolais doivent aller. Et puis, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que malgré qu'on ne connaît pas la date des élections, la CENI refuse de reprendre le recensement pour se rattraper sur ceux qui n'ont pas été recensés dans la route. Parce qu'on ne connaît pas encore. Alors, qu'est-ce qui fait que la CENI est... C'est vrai que ça nécessite des coûts. Et c'est vrai, mais il le faut aussi. Ça nécessite un coût. Il le faut pour libérer certaines énergies. Parce que ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes actuellement sont mécontents. Ça veut dire qu'on ira aux élections sans certains. C'est pas bien. Et donc, c'est en cela que je dis que Ambroise a en partie raison, parce que on ne peut pas évoluer comme ça. Bon, on ne sait pas, peut-être il y a une raison de parti politique ici, il nous dira s'ils sont contents que ça se passe comme ça, parce que on doit le savoir, hein, on doit le savoir. C'est le droit même des Togolais de savoir à quelle date on doit aller aux élections. Donc sur ce point, je pense que la CENI doit s'activer pour permettre au gouvernement de donner rapidement une date. Que ça peut être en 2023 ou 2024. En tout cas, de toutes les façons, ça permettra de rassurer les Togolais.
D'accord. Merci, Michel Tchadja. Nous donnons maintenant la parole à notre invité, Dr. Georges William Kouesson. Encore bonjour.
Bonjour, Monsieur Saibou.
Vous êtes le président du parti politique Santé du Peuple. Vous nous suivez depuis le début de cette émission. Votre réaction sur les sujets évoqués jusqu'ici.
Merci, Monsieur Saïbou. Je salue toutes les auditrices, hein, tous les auditeurs de la radio Canal FM. Mmh. Je salue également les journalistes qui nous accompagnent dans cette émission. Et merci beaucoup pour cette invitation. Il y a des sujets dont vous avez parlé, j'ai suivi attentivement. D'abord, par rapport au décès de Madame Claudine Pondo, j'aimerais quand même dire hein, que son âme repose en paix. C'est une dame que je ne connais pas beaucoup, mais que j'ai vue et évoluer de loin, que j'apprécie hein, pour son dynamisme. Et c'est une dame que j'ai toujours trouvée assez compétente, hein, là où elle était placée. C'était un choc que nous avons eu la dernière fois en apprenant son décès, qui était d'ailleurs subit, parce que, à ce qu'il paraît, elle se portait très bien et elle a fait une crise. Donc, que son âme repose en paix.
Amen.
Maintenant, par rapport au second sujet concernant la mise en place d'une unité de biologie moléculaire, vous savez, je suis pharmacien. D'abord, je tiens à saluer l'initiative, parce que l'initiative, il y a à la tête donc de cette unité de biologie moléculaire, c'est un pharmacien qui s'y trouve, donc c'est un honneur pour la profession. Et j'en suis fier en tant que pharmacien, hein, de voir que c'est une unité qui est dirigée par un professeur pharmacien. Et je salue également hein, donc cette initiative qu'on a eue hein, pour mettre en place une unité de biologie moléculaire, parce que étant également médecin, je sais l'importance hein, qu'une unité de biologie moléculaire a hein, dans le système sanitaire. C'est assez important parce que ça permet de faire le séquençage des ADN et de découvrir un certain nombre de choses. Et c'est assez important. Nous remercions hein, tous ceux qui ont eu cette initiative et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à sa mise en place. Bon, mais je tiens quand même à préciser que je ne connais pas encore s'il y a d'autres modalités, hein, et d'autres compétences qui sont lié à cette unité particulièrement, mais je sais qu'il y a une unité de biologie moléculaire, par exemple à l'université au Bénin, depuis plusieurs années d'ailleurs. Comme vous étiez en train de dire que c'était dans la sous-région, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas encore toutes les connaissances pour voir s'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas liées donc à ces unités de biologie moléculaire par rapport à ce qu'on a ici. Mais je sais quand même qu'il y a une unité de biologie moléculaire à Cotonou, à l'université précisément.
D'accord.
Et qui fonctionne depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Mais il vaut mieux toujours tard que jamais. Nous félicitons tous ceux qui ont contribué à mettre sur pied donc cette unité, et nous allons tous demander hein, que, avec la contribution de tous, qu'on en fasse un bon usage.
D'accord. Maintenant, sur les élections, sur le recensement.
Oui, sur le recensement. D'abord sur le chronogramme. Vous savez, la dernière fois, c'était, on a fait une réunion du CPC. Vous avez suivi.
Oui.
Et cette réunion du CPC, en réalité, c'était une rencontre, c'était une réunion extraordinaire, parce que ce n'était pas prévu. Mais c'est parce que certains partis politiques avaient demandé. C'est vrai que le ministre a dit après que lui-même, il avait l'idée de convoquer donc une séance du CPC, mais il y avait 6 partis politiques. Il y avait 6 partis politiques, il y avait Santé du Peuple, il y avait l'UDS Togo, il y avait ADI, il y avait un certain nombre de partis politiques, le PSR, je crois le MCD, la CPP, donc, qui avaient envoyé une lettre donc, au président du CPC et également au ministre d'État pour demander qu'il y avait urgence. qu'on convoque une réunion du CPC parce que il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre. Nous avons appris aussi après que séance tenante que quand on était à réunion que l'ANC également avait envoyé une lettre donc de son côté. Et à l'ordre du jour, ce que nous avions demandé, premièrement, c'était à discuter sur le recensement et à faire en sorte que l'on puisse reprendre le recensement dans la zone 1. C'est vrai que ce n'était pas comme ça, explicite dans la lettre qui a été envoyée. On avait demandé tout simplement qu'on allait parler du recensement. Mais pour nous, acteurs politiques de l'opposition, c'était qu'il fallait tout faire pour qu'on reprenne au moins le recensement dans la zone 1. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était le chronogramme. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller à une élection dont vous n'avez pas le chronogramme jusqu'à présent. On a commencé le recensement. On a terminé le recensement. On est en train d'afficher les listes électorales. Et on n'a pas le chronogramme de cette élection-là. On a dit que même il peut y avoir des glissements. Ce n'est pas grave. Mais qu'on nous situe à peu près. Quand est-ce que les élections vont se dérouler? Il faut qu'on ait une idée de cela. Nous n'allons pas dire qu'il ne peut pas avoir des glissements. Il peut y avoir des glissements. Mais qu'on nous donne à peu près un chronogramme qui nous permet de savoir qu'à tel moment, nous serons aux urnes. Ça, c'est le minimum quand même que l'on puisse demander. Et également, effectivement, à la réunion du CPC la dernière fois, on a martelé cela. On a demandé qu'on fasse tout pour qu'on nous donne un chronogramme. Le ministre a dit qu'il va s'en charger, il va faire en sorte que... Il a écouté notre demande et la transmettra donc à qui de doit, c'est-à-dire la CENI, pour qu'on puisse nous donner un chronogramme sur cela.
D'accord.
Et nous espérons que cela va se faire incessamment. Pour ce qui concerne le recensement, parce que pour aller vers la transparence de ces élections, en réalité, il faut revoir tout le système. C'est-à-dire, nous sommes réunis. Il y a eu la CNAP parce que on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient là en suspens et qu'il fallait y trouver des solutions. Vous êtes d'accord? C'est pour cela qu'on avait convoqué la CNAP. Et à la CNAP, il y avait un certain nombre de recommandations, de recommandations qui avaient été faites. Il y avait au total 51 recommandations. Les 51 recommandations ne vont pas nécessairement nous intéresser aujourd'hui. Mais il y a les recommandations qui concernent les élections, qui vont peut-être de numéro 1 à 29 points, qui concernent les élections. Maintenant, nous allons parler du recensement qui a été fait, parce que c'est un point également de la CNAP, parce qu'en réalité, c'était une révision électorale qui devait être faite.
D'accord.
Et la CNAP avait demandé, à la CNAP, on avait demandé qu'au lieu d'une révision électorale, qu'on fasse un recensement. Ça a été exécuté par le gouvernement. Nous en félicitons. Donc, on est passé au recensement. Mais il est important de voir, parce que une chose est d'exécuter les recommandations de la CNAP, une autre est de les appliquer. Et bien les appliquer sur le terrain. Le recensement, nous avons tous suivi tous les dysfonctionnements qu'il y a eu dans la zone 1. Les partis politiques l'ont relevé. Les organisations de la société civile l'ont relevé. La CENI l'a reconnu. Et même le gouvernement a fait un communiqué pour dire qu'il y avait des problèmes. Donc, nous pensions que cela devait être tout à fait naturel. Qu'on reprenne, ne serait-ce que, même si on peut trouver un processus léger pour reprendre le recensement dans la zone 1.
Reprendre carrément?
Non, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un processus léger. C'est-à-dire que, ne pas peut-être au lieu de le faire comme on l'a fait dans tous les bureaux de vote, peut-être voir ça peut-être par canton, ou bien voir ça peut-être par, je ne sais pas, par commune, quelque chose.
Là où il y a eu des problèmes.
Non, c'est-à-dire dans la zone 1.
Dans la zone 1.
Dans toute la zone 1, mais peut-être ne pas aller, pour que cela ne n'entraîne pas trop de coûts.
D'accord.
Vous trouvez un processus léger, on a proposé. Trouvez un processus léger pour reprendre au moins le recensement, pour que ceux qui n'avaient pas été recensés puissent avoir leur carte, c'est leur droit constitutionnel. Et qu'est-ce qui s'était passé quand on a posé le problème? C'était le nombre de recensés. Parce que le ministre nous avait dit qu'il y avait 1 700 000 inscrits. Si vous prenez 1 700 000 dans la zone, par rapport à la population de la zone qui était de 3 500 000 à peu près, desquels il faut enlever les mineurs, les étrangers, on estimait à peu près à 60% le taux d'enrôlement. D'accord? On estimait à peu près à 60% le taux d'enrôlement. Et on nous a fait comprendre que ce taux est conforme aux normes et standards internationaux. Même au-delà des normes et standards internationaux, parce que dans les normes, ou bien ce qui se fait de façon générale, on a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire et bien d'autres, autour de 35-40% d'enrôlement par rapport à la population générale. Et donc, par rapport à ce taux, il n'était pas question de penser à reprendre le recensement. Et nous avons dit non. Mais il y avait quelque chose de fait. C'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas eu leur carte d'électeur. Ça, tout le monde l'a reconnu. On fait quoi de cela? On nous a fait comprendre que ça a été la même chose dans les autres zones. Que là-bas aussi, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas eu leur carte avant la fermeture des bureaux de vote le dernier jour. Et nous avions dit, là, mais le gouvernement a reconnu qu'il y avait des problèmes dans la zone 1. Le gouvernement n'a rien dit concernant les autres zones. Et le ministre d'État nous avait fait savoir que, en réalité, le gouvernement ne peut pas se mettre à faire des communiqués tout le temps. Mais que ces choses avaient été et c'était également avéré dans les autres zones. Et on avait dit, mais que le gouvernement a reconnu, il a dit non, le gouvernement ne peut pas se mettre à faire des recommandations tout le temps. Et puis, il avait posé un problème de délai. C'est-à-dire qu'il y a un délai, que quels que soient les cas, les gens seront toujours en retard, mais qu'il y a un délai qui est donné, c'était le dernier jour à 16 heures. Que si les gens n'étaient pas dans le délai, c'est qu'ils ne sont pas dans le délai, on ne peut rien faire pour eux. Et on les avait fait comprendre que ceux qui n'avaient pas été enrôlés n'étaient pas venus le dernier jour après 16 heures. Ils étaient dans le délai, ils étaient venus dès le matin.
D'accord.
C'est parce qu'on n'a pas pu, la CENI n'a pas eu la capacité, compte tenu peut-être de la célérité avec laquelle la chose devait être faite. C'était pas le cas. Ce qui fait que après 16 heures, on n'a pas pu les enrôler. C'est pas qu'ils étaient hors de délai, ils étaient dans le délai. Et finalement, vous savez qu'il y avait des problèmes de doublons. Ouais. Il y avait des problèmes de doublons. Et quand on insistait que non, nécessairement, les gens doivent. Ceux qui n'avaient pas eu leur carte devaient être enrôlés pour avoir leur carte. C'est en ce moment que le ministre disait qu'est-ce qui nous prouve que ceux qui n'étaient pas enrôlés, ou bien ceux qui n'étaient pas enrôlés le dernier jour n'étaient pas ceux qui étaient déjà, qui se faisaient enrôler plusieurs fois. C'est-à-dire, puisqu'il y a certains qui ont été enrôlés 13 fois, 8 fois, tout ça là, pour les problèmes des doublons. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas ceux-là qui étaient venus le dernier jour? Donc, c'est des gens qui, probablement, avaient déjà leur carte. Non, on va dire, on ne peut pas, sur des suppositions, des hypothèses, empêcher les gens d'avoir leur carte d'électeur.
D'accord. Merci, docteur. Nous allons revenir plus tard avec vous sur un autre sujet. Élection présidentielle à venir au Gabon. Le parti Union pour la République du Togo, soutient le candidat du PDG, Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Le secrétaire exécutif et la trésorière générale de UNIR, respectivement Acholi Akleso et Yawadi Wadi Tchégan, sont allés, la semaine écoulée, exprimer de vive voix le soutien de leur parti au président Ali Bongo Ondimba. À la une du journal des Guardian, il est écrit « Drôle de félicitations du parti UNIR Togo à Ali Bongo pour le troisième mandat, le soutien dans le mal. Alors, Ambroise Pondio, en quoi le soutien de la candidature d'Ali Bongo par UNIR est-il drôle et malsain?
D'abord, je voudrais faire une précision que UNIR est au Togo, UNIR est au Gabon. Le parti au pouvoir au Gabon, c'est UNIR. Parce que je crois que le PDG a été changé en UNIR.
Ah, d'accord.
Et on a UNIR ici, c'est pourquoi on a fait la précision dans le sous-titre.
D'accord.
Maintenant, concernant même l'article CI, on a essayé de relever le fait qu'un parti politique aille soutenir un autre candidat dans un autre pays. À un moment où le débat sur le troisième, quatrième, cinquième mandat fait rage. Surtout le débat du troisième mandat. D'ailleurs, c'est un cap à ne jamais franchir. En Afrique de l'Ouest surtout, et en Afrique en général. Et ce débat-là couvert au point que la dernière fois, le président nigérian qui a pris la tête de la CDAO tout récemment, avait dit qu'il est là pour restaurer la démocratie. Et quand on restaure ou on cherche à restaurer la démocratie, c'est qu'il y a des cadres juridiques liés, c'est-à-dire dans un contexte régional. Le protocole de la CDAO qui parle de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui parle de l'état de droit, nous avons fait cas de ce protocole-là. Et il y a des mauvais élèves dans la sous-région. Ils ne sont plus nombreux en Afrique de l'Ouest. On a même précisé que, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on n'en parle même pas. Parce que plusieurs régimes se sont mis en royaume, c'est-à-dire entre griffes. Parce qu'il y en a des présidents qui sont indéboulonnables, que ce soit au Congo, en Guinée équatoriale, au Cameroun et au Gabon. Et la particularité du Togo, et qui fait d'ailleurs une curiosité, et celui du Gabon, c'est que non seulement les gens ont déjà franchi le cap du quatrième mandat au Togo, et au Gabon, on est allé féliciter le président sortant gabonais pour son troisième mandat, ce que beaucoup d'Africains ne veulent plus voir, ne veulent plus entendre. Ni la communauté internationale africaine ne veulent plus l'entendre. Mais le geste est un soutien du mal, parce que le mal se trouve où? Le mal se trouve dans le sens où, même si c'est les thèses que même ils ont remodifiées, les constitutions qu'ils ont tripatrouillées pour pouvoir rester, ça ne répond pas à la situation du peuple. On sait comment ça se passe. Et donc, vous allez soutenir un candidat qui est vomi sur lui. Mais vous faites l'apologie du mal. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, celui au nom duquel on envoie Félicité, puisque lui-même, il est allé plusieurs fois, le président de la République d'ici, c'est que lui-même, il est en son 41e mandat. Et il est le fils de celui qui a fait le Togo, qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Et ce n'est pas un truc anodin. Et maintenant, lui, l'autre, Omar Bongo est parti, c'est le fils qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a tellement de liens entre les deux personnes que, quand ça se passe comme ça, il faut soutenir l'autre pour qu'il ne tombe pas. Donc, lui aussi viendra soutenir celui qui est ici parce qu'ils sont plus nombreux. C'est quand, lorsqu'ils seraient nombreux, que l'article-là ne valait même pas la peine. C'est parce que les gens sont en train de quitter ce schéma-là. Le schéma du troisième mandat. Alpha Condé l'a fait, on l'a déchu. Il se trouve là où il se trouve aujourd'hui, en Turquie. Et à part Fonia Singe, c'est l'autre là qui a résisté à la Savatara en Côte d'Ivoire. Mais l'autre, le Sénégalais Macky Sall, il a tout fait. Il a fait de feu de tous les bois pour pouvoir le faire, mais il ne peut pas. Parce que les Sénégalais ne seront pas d'accord. Maintenant, l'autre, le troisième volet du truc qu'on n'a pas essayé substantiellement de relever, c'est que vous allez voir la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une institution républicaine. Certes, elle est trésorière du Parti Uni, moi je n'en sais rien.
Elle est allée dans le cadre du parti.
Elle ne devait pas aller dans le cadre du parti, justement. Elle est connue en tant que présidente d'une institution républicaine, d'une institution de la République, l'Assemblée nationale, la représentation nationale. Donc, elle représente les députés, donc les Togolais. Donc, au nom de cela, elle ne devait pas, en principe, y aller.
C'est une grave erreur. Si elle était allée au nom de l'Assemblée nationale, ça se comprendrait.
Elle devait aller en mission d'État ou dans une mission officielle, envoyée par le chef de l'État, qui aussi est une institution républicaine. Mais ici, on parle d'UNI, il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes dans UNI qui peuvent aller. L'acte même, qui sont allés soutenir quelqu'un, maintenant on soutient un autre régime dans un autre pays. Et c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est le Parti Uni. Le premier volet, je te laisse souligner que c'est mal vu. Et on soutient le mal. Parce que comme nous aussi, nous sommes dans le mal, nous préférons soutenir pour que nous ne soyons pas seuls. Maintenant, le second volet, c'est la violation des règles, des principes constitutionnels, des principes moraux qui sont liés même
à la personnalité de madame Djibori Awa Djibori Tchéga, qui représente le peuple du Togo. Ça veut dire c'est le peuple qui apporte son soutien à une démarche qui est mal vue en Afrique et dans le monde.
D'accord, merci Ambroise. Alors, Michel Tchadja, des partis politiques de différents pays ont l'habitude de se soutenir d'une manière ou d'une autre. On le voit souvent pendant des congrès, quand un parti est en difficulté ou en joie. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique que UNI apporte aujourd'hui son soutien à son homologue du Gabon?
Tu sais, excuse-moi de dire comme ça, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Je ne veux pas en dire long parce que, bon, ces soutiens-là ne m'ajoutent rien, ça n'ajoute rien au Togo. Et bon, je ne sais pas quoi dire, puisque, comme tu le dis, les partis politiques le font, je ne sais pas. Les partis politiques, eux-mêmes, s'ils ont des intérêts particuliers dedans, mais sinon, quand vous prenez les populations, nous, on n'a rien dans ça. Ce n'est pas, c'est les partis politiques qui ont peut-être leurs intérêts, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Quel parti soutienne et quel autre parti, bon, ça m'importe peu, hein. Ce n'est pas ça qui me fait avancer, qui fait avancer le pays. Non, ça ne me dit rien, quoi.
D'accord. Alors, nous revenons au docteur Georges William Kouessan. Il y a quelques semaines, votre parti a fait une sortie médiatique au cours de laquelle elle a fait une proposition au parti au pouvoir. Santé du Peuple propose à UNIR de procéder à un partage de son pouvoir avec les autres partis politiques. Pouvez-vous nous rappeler la réflexion qui vous a conduit à cette proposition?
D'accord. Je vous remercie. Au fait, c'est une idée que nous avons eue depuis le lendemain de la présidentielle 2020. Et surtout quand il y avait les difficultés avec la dynamique Monseigneur Koudjo, tout ça, nous avons réfléchi au niveau du parti. Et nous avons déjà des brides de réflexion par rapport à ce sujet depuis le lendemain de la présidentielle 2020. Mais on ne les avait pas rendues publiques compte tenu du fait que nous-mêmes nous étions partie prenante à l'élection présidentielle de 2020 et qu'on était en passe de créer un gouvernement. Les gens n'allaient pas comprendre que l'on puisse faire une proposition comme ça à tel moment. Et parce que cela aurait été interprété carrément d'une autre manière. C'est pour cela que nous y avons sursis et nous avons dit que nous allons reporter ça à une autre période. Donc, quand nous allons faire notre congrès la dernière fois, la réflexion est revenue autour du thème changement paisible et réussi au Togo. Peut-il exister une voie? Et c'était autour de ce thème-là que nous avons débattu. Et on était arrivé à cette conclusion que il faut faire une proposition. Je dis bien proposition. Parce que ça, je tiens à le dire, ce n'est pas une demande, c'est une proposition.
D'accord.
Et on fait une proposition de partage de pouvoir à la classe politique. En réalité, ce n'est pas seulement UNIR, c'est également au parti de l'opposition. C'est vrai que nous avons eu à en discuter avec certains partis politiques avant le congrès. Nous n'avons pas eu à discuter avec tout le monde. Mais cela va, quand il va avoir, puisque c'est entre l'opposition et le parti au pouvoir, donc c'est à toute l'opposition que la proposition est faite.
D'accord.
Donc ce n'est pas Santé du Peuple qui veut partager le pouvoir, non, c'est l'opposition. Donc c'est à toute l'opposition. Comme vous avez dit que c'est une proposition à UNIR, au fait c'est à toute la classe politique.
D'accord.
Bon, donc, nous sommes partis de quelle réflexion? C'est dit, dans une structure normale, dans un pays normal, où l'alternance, c'est-à-dire politiquement normal, où l'alternance se fait, c'est-à-dire démocratiquement normal, où l'alternance se fait régulièrement, c'est-à-dire on fait les élections, il y a un autre parti qui vient et qui exerce le pouvoir. Là, le parti qui prend le pouvoir l'exerce et l'exerce pleinement. C'est son droit. Donc, il n'est même pas question d'envisager un partage de pouvoir parce que démocratiquement, ça n'aurait pas de sens. Parce que le parti a un programme.
D'accord.
Et qu'il vient dérouler quand il est au pouvoir. Mais dans notre pays, étant donné que nous avons un régime qui est au pouvoir pendant près de 6 décennies. Nous nous sommes dit que cette longévité-là fait que, premièrement, il y a des compétences dans d'autres partis politiques. Et quand tu n'es pas, quand vous n'êtes pas de UNIR ou d'un parti allié, vous ne pouvez pas mettre votre compétence à la disposition de votre pays. Vous ne pouvez pas mettre votre compétence à la disposition de votre pays. Donc, c'est donc des compétences qui naissent, qui grandissent et qui disparaissent sans profiter réellement au pays. Donc, on est arrivé à cette conclusion que le pays utilise à minima les compétences disponibles, ce qui ralentit nécessairement son développement. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours par rapport à la longévité au pouvoir, on s'est dit la longévité au pouvoir fait que les biens nationaux sont dans la main d'une minorité au détriment de la majorité. Cela a beaucoup de conséquences. D'abord, ça crée des tensions, mais ça fait aussi que il n'y a pas un bon dispatching. Il n'y a pas bon dispatching des biens nationaux, ce qui fait que et ça ne profite pas réellement au pays. Maintenant, quand, par exemple, l'opposition sera dans la gestion, d'abord, ça va transformer, ça va améliorer la gestion, mais en plus, ça va faire qu'il y aura un meilleur dispatching des biens nationaux, ce qui va donner d'autres possibilités d'investissement et de revenus à d'autres familles, à d'autres personnes, ce qui sera toujours à l'actif du pays. Parce que on sait que les facteurs de la croissance, c'est l'investissement et le revenu. D'accord. Donc ça va donner d'autres possibilités d'investissement, d'autres possibilités de revenus, ce qui fait que on aura donc ça va booster le développement de notre pays.
D'accord. Alors, docteur, ce n'est pas un concept nouveau au Togo. Le pays l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises avec des premiers ministres, des ministres issus de l'opposition dans le gouvernement. Je ne sais pas si ça avait marché à l'époque ou non, mais qu'est-ce qui vous donne la garantie que cette fois-ci, ça va vraiment marcher?
Oui. Au fait, c'est vrai, vous dites que ce n'est pas un concept nouveau. Oui. Nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas que le concept soit nouveau ou pas, mais nous estimons que quelque chose qui n'a pas marché au temps T1 peut marcher au temps T2 parce que peut-être les mentalités ont évolué, les compréhensions ont évolué. Donc, pour nous, ce n'est pas l'originalité de la proposition qui nous importe, mais c'est l'efficacité, c'est son efficacité qui nous importe.
Poursuivez.
Première chose.
Voilà.
Mais, par rapport à ce qui a déjà existé, nous avons posé un certain nombre de conditions qui nous permettent de dire que ce que nous avons proposé, il y a quand même une différence avec ce qui était fait jusque-là. Par exemple, vous avez parlé de l'APG, par exemple, de 2006, où il y avait le gouvernement d'union et en 2007, tout ça là. Quand vous prenez ça, par exemple, c'est juste un accord de gouvernement. Donc, c'est un accord qui est porté seulement sur la formation d'un gouvernement. Alors que si vous suivez ce que nous avons dit, ce n'est pas seulement le partage de pouvoir dont nous parlons, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est au niveau de tous les postes, à tous les postes de nomination, de responsabilité, de tous les postes de nomination, c'est-à-dire sur tout l'arbre de déconcentration, c'est-à-dire les préfets, les gouverneurs, au niveau des chancelleries, c'est-à-dire qu'on est un quota, que l'opposition est un quota pour proposer des personnes à ces postes-là. Ce qui fait déjà une différence avec ce qui était dans l'APG, qui était un accord global dans lequel se trouvait ponctuellement un accord de gouvernement, parce que l'APG, il y avait beaucoup d'autres choses. Si vous prenez par exemple l'accord de 2010 également, il y a également des différences, qui sont quand même des différences fondamentales, parce qu'aujourd'hui, c'est une proposition qui est faite à toute la classe politique. D'accord. Alors que dans l'accord de 2010, c'est un seul parti politique qui s'est dit, je vais faire un accord avec le gouvernement. Ça, c'est différent.
D'accord. Alors, bientôt la pause. Michel Chadia, vous pouvez poser la question.
Oui, docteur. Non, bon, j'ai voulu, peut-être que dans un premier temps, que docteur nous donne son appréciation de l'accord de 2010, le frelais 2010 entre le parti au pouvoir et l'UFC, et puis lui féliciter pour ce courage politique, un parti politique de l'opposition qui demande à gouverner avec le parti au pouvoir. C'est rare d'entendre ça officiellement. Dans la d'habitude, ils négocient ça officieusement, loin des regards, loin des caméras et tout. Parce que dans notre pays, on nous a appris une chose, que lorsque vous êtes dans l'opposition et vous vous approchez du pouvoir, c'est que vous êtes vendu, vous êtes acheté, vous êtes affamé, vous êtes... c'est pas on traite de tous les noms d'oiseaux. Si eux, au niveau des santé du peuple, ils ont eu ce courage de le dire, je pense que c'était officiellement, ils avaient fait la demande, je trouve que c'est une chose intéressante, parce que dans d'autres pays, comme au Sénégal, on a vu des gens aller travailler avec les partis du pouvoir, mais ça ne les a pas empêchés de prendre le pouvoir un jour ou l'autre. Donc, le parti de santé du peuple est dans cette logique, je pense que c'est à lui de mesurer, parce que dans ce pays, cette manière de faire n'est pas tellement comprise par beaucoup de Togolais.
D'accord. Nous marquons une pause et on revient.
93.5.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Le moment de recevoir des auditeurs. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour.
Monsieur, ce monsieur?
C'est monsieur Fousseni.
Oui, oui, c'est bien lui. Vous, c'est qui?
Oui, c'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui. Et pour commencer, je salue monsieur Sass Gaou, Gegledo, Gadaglassi, Avou, Dounou de Mesa, Mordirai. Ça va lui faire plaisir.
Absolument.
Oui. Pour ce qui est de demander aux électeurs d'aller vérifier leur nom sur la liste affichée dans les établissements. Il y a certains établissements qui ont scellé leur portail. On fait comment? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'on va demander au chef d'établissement de nous ouvrir, de demander à leur gardien de nous ouvrir les portes pour qu'on puisse vérifier? That is the question.
D'accord.
De deux, Michel l'a dit, ça, pour ce qui est de féliciter la candidature d'Ali Bongo, est-ce que nous, on a besoin de ça? Le gars n'a même pas gagné une élection. On se débarque. Si je suis à la place du chef de l'État, je vais demander les comptes à ces messieurs qui ont fait ce déplacement-là. Le gars n'a pas encore gagné une élection. On se débarque pour aller féliciter. Mais qu'est-ce qu'on a au Togo? Il faut qu'on nous fasse l'économie de certaines choses. Il y a le Kwenja, le nom qui chauffe. On va concentrer nos énergies sur ça. Il y a un monsieur qui dit je me présente, on se débarque pour aller l'électricité. C'est une aberration.
D'accord. Merci à vous. Allô? 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 Je crois qu'il est reparti. 22 21 33 74 22 20 19 68. Allô?
Allô?
Oui, allô?
Allô?
Bonjour. La ligne n'est pas bonne.
Bon.
Allô? Allô, on va prendre un autre auditeur.
Allô, c'est bon?
Allô?
C'est bon?
C'est bon. Je crois que c'est bon maintenant.
C'est bon. Oui.
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est madame?
C'est ici.
Madame ici, on vous écoute.
Voilà, je fais un coucou à Fak, là où il est, quoi. Je sais qu'il va bien.
Merci beaucoup.
Parce que, à moi, il faut venir. Voilà. Vous avez parlé de la FEMI, je ne vous ai pas trop suivi. Hein. Mais la FEMI, tout ça là, qui pose problème. Les élections, moi je dis, on veut nous faire croire que tout ce qui concerne les institutions de la République du Togo, c'est faux quoi, c'est du mensonge, puisqu'on ne respecte rien. On ne respecte rien dans le pays. La constitution, la CENI, et tout quoi, tout est bâclé, donc c'est qu'on nous dit que c'est du mensonge. À Djedaden, nous. Bref, et je viens pour M. Kouissant. Il prône la gouvernance partagée ou je ne sais pas quoi, ou l'union. L'union de l'opposition, c'est ça? Je ne vous ai pas trop suivi.
Pas l'union de l'opposition, le partage du pouvoir.
Oui, voilà. Mais les gens l'ont fait depuis 90, non?
Oui, il faut
collaborer.
Il dit qu'il faut l'union de l'opposition d'abord.
L'union de l'opposition d'abord.
Voilà.
On n'en a pas besoin. On est plus dans le parti unique pour unir l'opposition. Mais chacun n'a qu'à aller de son côté et il se complète après au deuxième tour, quoi, s'il y a, hein. Mais bon, on n'a qu'à le faire comme ça, parce qu'on l'a fait depuis le code 2, code 1, et CST, tout ça là, jusqu'à la DMK, mais c'est bon.
D'accord.
Et le Togo redosse de 120 partis politiques.
D'accord.
Si on peut voir clair, on dira que 110 au moins sont des partis satellites. Est-ce qu'il y en a dedans qui se sont une fois ralliés, hein, pour faire quoi que ce soit? Non. Hein? Donc, allez-y individuellement, quoi. Mais pour le partage du pouvoir, c'est que M. Cossan veut nous plomber l'alternance qu'il faut dans une république. S'il propose ça encore après 60 ans, là, c'est que il veut nous plomber l'alternance. Il faut alterner.
D'accord. Il va vous répondre dans un instant.
Oui, il faut attendre.
Merci beaucoup. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour.
C'est Abdoul.
Monsieur Abdoul, on vous écoute.
Oui, je suis d'accord avec Michel Kadia. Parce que ça fait rire, quoi. Ils vont quitter, aller féliciter Ali Bongo, qui est malade de AVC. Mais ça fait rire. On n'a pas besoin de ça au Togo. Mais je voulais aussi demander au docteur Cossan, je sais pas si on remarque, quand ils font les réunions avec le ministre Badoua Boukossi, est-ce qu'il est sérieux, il est sérieux dans ses propos? Parce que depuis 1990, nous sommes les enfants, nous sommes des petits. Vous avez voulu l'alternance. Et ceux qui ont pouvoir ont refusé. Ils ne veulent pas alterner. Ils disent que si vous voulez prendre le pouvoir, allez-y prendre les armes. Nous, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas les armes. Mais est-ce que vous pouvez les laisser continuer gouverner le pays comme ils veulent? C'est leur souhait. Je ne veux pas l'alternance. Le Cossan gagne les élections. Ils ne donnent pas. Ils utilisent l'argent du pays. Mais de construire les hôpitaux pour nous, les routes pour nous, les écoles pour nous. Ils prennent des milliards à organiser les élections. Je crois que c'est le Cossan qui les encourage dans toutes ces choses-là. Si le Cossan se retire un jour, les laisser gouverner comme ils veulent, les dire que nous on ne veut pas les élections avec vous, allez-y seuls. Non, pas continuer, on sait que c'est eux qui sont en train de bouffer l'argent du pays. Mais quand vous allez aux élections avec eux, et quand vous gagnez, on ne vous donne pas. Et vous n'avez pas de force, vous n'avez pas l'armée, vous ne pouvez pas réclamer votre victoire. Et vous ne continuez pas à aller aux élections avec ces gens-là. Moi, j'ai pitié, et ça me fait rire beaucoup.
D'accord, merci. Merci, monsieur Abdoul. À très bientôt. Allô? Allô, oui, bonjour.
Allô.
Oui, on vous écoute. Allô.
Allô.
Oui, on vous écoute.
Allô.
Ah, ça ne marche pas, nous allons prendre un autre auditeur. Oui, allô. Allô, vous nous suivez?
Allô.
Ça ne marche pas. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour à notre invité.
Oui.
Bonjour.
C'est Bozambo.
Monsieur Bozambo, on vous
bonjour,
écoute.
Il y avait quelque chose qui se passe à Lomé maintenant. Les gens du Alcanais, les Libanais, qui viennent de nous escorter, nos petites soeurs. Là, ça fait 3 jours, 4 jours comme ça, nos soeurs, nos frères, ils sont en train de travailler en une société de Libanais, qui on appelle de A, de I. Il y a une société qui fait la blonie là. Il y avait les deux jeunes dames qui avaient trouvé quelques agents par terre, un agent de l'Europe comme ça, parce que ça se trouve dans la Blonie. Elle a pris. Donc, d'autres garçons aussi l'ont pris. Donc, au moment qu'ils ont pris de l'argent, le chef personnel et le directeur de la société, ils ont licencié 2 personnes. Pourquoi? Ils ont trouvé l'argent, ils n'ont pas donné à la société, ils ont pris l'argent pour partir. J'ai appelé le chef personnel de cette société et je dis que ça se trouve dans leur texte, que et quelqu'un a trouvé de l'argent, ils n'ont qu'à remettre au directeur ou bien à la société, il dit que non. Et pourquoi vous avez licencié les 2 personnes-là? Il dit que eux aussi, ils sont fatigués de ça. Donc, nous sommes au Togo. Les étrangers viennent nous torturer. Et vous, les opposants, vous se taisez. Nous sommes partis à l'intérieur. On nous torture. Vous ne dites rien. Nous sommes là pour des élections. Non, ça ne va pas. Il faut sauver les Togolais avant de passer aux élections au Togo. Merci et bonne émission.
D'accord. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Allô? Allô.
Votre carré.
Allô, je crois qu'il est parti. 22, 21, 33, 74, 22, 20, 19, 68. Allô. Allô.
Oui.
Oui, bonjour.
Oui, allô. Oui, bonjour.
Monsieur Pélé, on vous écoute.
Ok, je salue le plateau.
Oui.
Bon, je pense que nous sommes dans le processus électoral. Et puis le mandat accepté le 29 avril, ça a commencé. C'est le recensement. C'est le RPT Unir dit qu'il est un grand parti. Il a couru, qu'il couvre tout le territoire. Maintenant, le peuple l'a exhorté. Il veut prendre sa carte d'électeur. C'est avec la carte d'électeur qu'on doit aller voter. Il y a l'article 44, l'article 45. Bon, comment on va faire? Parce que nous sommes légalistes. Le peuple togolais est un peuple légaliste. Nous voulons la carte d'électeur pour aller voter. Si le RPT est venu, si Paul Nyasimbe à 70% en 2020, nous voulons voir ça. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, comme on l'a dit, que le RPT, moi je le dis que le RPT est un régime illégitime. Il n'a pas besoin de certains pour aller discuter ou bien pour aller négocier pour lui ou bien aller partager avec lui. Il est avare, il est gourmand, il ne donne pas. Nous avons besoin d'aller aux urnes parce que le processus électoral a déclenché et que nous avons besoin de tout le monde avec sa carte d'électeur. Si nous ne pouvons pas avoir la carte d'électeur, qu'est-ce que le RPT nous fournit? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui sont sur les carreaux jusqu'aujourd'hui? Ah, donc, je voudrais demander à M. Dr. Kossom, vous êtes dans le CPC, dans le dialogue, dans un cadre que tout le monde a accepté, que le RPT est un parti de dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci.
D'accord. Merci, M. Pelli. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô?
Bonjour.
C'est un monsieur?
C'est un monsieur Anani Lefoli. J'appelle de Lucas.
D'accord, on vous écoute.
Dans un premier temps, j'aimerais demander si parmi vous, il y a des discussions, des commissions sur le site du gouvernement du Togo pour pouvoir vérifier à travers nos sites-là la liste. C'est-à-dire, comme le font par exemple les élèves au bac 1, mais pour avoir son résultat, on a des codes et puis on peut avoir ça. Autrement dit, je veux avoir des renseignements là-dessus. Parce que c'est normal qu'au Togo, nous avons des sites et services publics du gouvernement qui peuvent donner ces informations.
D'accord.
Deuxième aspect, c'est par rapport à la gouvernement au Togo. Tel que le propose le docteur Kossom, je suis d'accord, mais il faut aller au fond de discussion pour pouvoir dégager une véritable opposition digne de ce nom.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Allô, le dernier auditeur. Allô.
Oui, M. Saïdou, bonjour.
Bonjour.
Oui, je salue vos invités. Hein.
Merci beaucoup. C'est monsieur?
C'est comme Mathieu.
Monsieur Mathieu, on vous écoute.
Oui, s'il vous plaît. Nos banques font certaines choses qui ne sont pas appréciables. Les caméras de surveillance qui nous ont installées, ce n'est pas pour elles seules, ce n'est pas la sécurité des banques seules, mais c'est pour nous aussi les clients. Il y a une banque, je vais la nommer en même temps, Aura Bank, d'Avenue. J'ai perdu mes objets, une somme des objets dans leur banque. Que j'ai demandé qu'ils regardent dans leur caméra. Ça fait 3 mois, je n'ai aucune réponse. Carton rouge.
D'accord. Merci beaucoup. C'est donc le dernier auditeur de ce jour. Merci. Alors, nous allons réagir. D'abord, il y a des questions qui ont été adressées à Dr. William Kwesson.
Oui,
vous pouvez aller.
D'accord, merci. Bon. Je vais commencer par l'avant-dernier intervenant parce que il y a c'est M. Anani, je crois. Voilà. Il dit que pour le partage et que il pense que c'est une bonne chose, mais qu'il faut aller au fond des discussions. Ça, c'est vrai. C'est pour cela que nous avons adopté une démarche à suivre par rapport à cette initiative. D'abord, la toute première démarche, c'est d'envoyer des courriers avec la résolution, parce que c'était le point 2 de la résolution du Congrès. Donc, d'envoyer les courriers avec la résolution au point 2 du Congrès. C'est d'ailleurs pour laquelle, moi, je le dis ouvertement, et nous avons pris sur nous donc d'envoyer et donc ces résolutions là à tous les partis politiques et de l'opposition, à tous les partis politiques de l'opposition, et nous avons demandé des rendez-vous. Donc nous avons voulu rencontrer et chaque acteur politique et pour faire, pour avoir une discussion, parce que nous avons dit ce que nous avons fait n'est juste qu'une proposition, c'est juste une proposition, c'est un peu du brut. Donc nous, quand nous allons nous asseoir, nous allons faire en sorte que ça soit quelque chose de plus consistant, que et nous allons en faire un document. Donc nous allons entrer dans les dans le fond du sujet, entrer dans les réflexions pour voir ce que cela va donner de façon beaucoup plus concrète. Donc c'est pour cela que nous faisons le tour, mais une des conditions, c'est qu'il faut que ce soit la majorité de l'opposition qui accepte le concept pour qu'on puisse être assez soudés avant d'aller donc dans cette démarche-là, puisqu'on puisse être assez soudés, parce que nous tirons quand même les conséquences de l'accord de 2010. Nous avons vu, quand nous avons estimé que le parti était un peu isolé et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas question, il n'est pas question même que un parti ou deux partis ou trois partis aillent dans cette histoire-là. Il faut que ce soit la majorité des partis politiques, de l'opposition. Nous avons dit majorité parce que nous sommes un peu pessimistes quant au fait que on puisse avoir l'adhésion de tous les partis politiques. Ça va, on s'est dit, on est un peu sceptique par rapport à ça. C'est pour ça que nous avons dit au moins la majorité des partis politiques. Maintenant, les gens nous ont demandé comment vous définissez cette majorité. C'est d'abord par rapport au nombre de partis politiques. D'accord, nous connaissons tous par rapport à un homme, nous connaissons la majorité. Mais également au poids par rapport à la représentativité des partis politiques. Quand nous allons nous asseoir, nous allons donc donner des critères. Nous allons chercher, nous allons poser des critères qui pourront nous permettre donc de voir ce que nous pouvons appeler la majorité et des partis de l'opposition. Donc, le tour que nous sommes en train de faire, si après nous avons fini le tour et nous trouvons que non, la majorité n'a pas adhéré à ça, on abandonne. On abandonne tout simplement. Si nous trouvons que la majorité a accédé à cela, là, il serait maintenant question de nous asseoir pour parfaire le document. Dans un second temps, parfaire le document. Maintenant, troisième temps serait alors le document qu'on aura. Donc, demander une audience au chef de l'État et lui présenter le document. Ça, ce sera le troisième point. Maintenant, si le chef de l'État nous fait un feedback et qu'il est favorable à ça, donc le quatrième point sera alors de faire des tournées d'information et de sensibilisation de nos populations.
D'accord.
Donc, c'est ce que nous avons mis comme chronogramme, comme démarche pour cela. Donc, quand nous allons nous asseoir, je pense que nous allons rentrer dans le fond des sujets et voir si on peut évoluer ou pas.
D'accord.
Bon. Pour ce qui concerne la vérification électronique des listes, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui.
D'accord.
Maintenant, pour ce que dit, il ne faut pas aller aux élections. Bon, c'est vrai que les gens disent qu'il ne faut pas aller aux élections, de laisser le pouvoir aller seul à ces élections. Peut-être les gens peuvent nous dire ne participez pas aux élections présidentielles. Encore, on peut encore comprendre un peu, mais les élections intermédiaires, quand on n'y va pas, mais on tue carrément la démocratie. Au moins, nous devons participer à ces élections-là, ne serait-ce qu'à l'Assemblée, avoir un minimum de blocage, ou bien chercher aussi à avoir la majorité, même si ça ne va pas nous permettre de gouverner. D'accord. Au moins, quand même, avoir cette majorité. Nous devons toujours nous battre pour les élections à la base, donc les municipalités, les régionales, tout ça. Là, je pense que ce sont des élections qu'on ne peut pas boycotter, selon moi, ma compréhension des choses. Peut-être on peut boycotter les élections présidentielles, mais les élections, si c'est pas bien organisé, on pense que rien n'en sortira. On peut boycotter les élections présidentielles, mais les élections à la base, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de les boycotter.
D'accord.
Mais madame Essie a dit qu'ils veulent l'alternance, ils ne veulent pas le partage du pouvoir. Ah, je tiens à dire à madame Essie que le partage de pouvoir ne veut pas dire que c'est la fin, ou bien c'est adieu à l'alternance. On a vu dans d'autres pays, les gens partager le pouvoir et l'opposition a pris le pouvoir après et l'a exercé. Cela ne veut pas dire aussi que l'opposition n'existera plus. Non, loin de là. Parce qu'il n'y aura qu'une minorité d'abord qui sera à des postes de responsabilité. Les autres qui resteront dans l'opposition joueront leur rôle de contrepoids du pouvoir. Et à l'égard du pouvoir et éventuellement à l'égard de leurs pairs qui seront à des postes de responsabilité. L'opposition va continuer. Nous allons participer efficacement à toutes les élections. Pourquoi pas si on arrive même à avoir un groupe, c'est-à-dire qu'on arrive même à se réunir autour de ça, on ne peut pas aussi avoir un candidat pour les élections présidentielles aussi à venir. Ce sont tous des idées. Et puis moi je dis, les gens disent que l'opposition n'arrive pas à s'unir. Nous disons que l'opposition jusque-là n'arrive pas à s'unir autour peut-être souvent des thèmes qui incluent la compétition, parce que généralement, on s'unit autour des élections pour aller aux élections. Ça, il y a la compétition. Ça peut peut-être poser des problèmes. Aujourd'hui, le partage de pouvoir, il n'y a pas de compétition. C'est qu'il y a toujours des intérêts, c'est vrai. Mais c'est un sujet où il n'y a pas de compétition. Ça peut peut-être faciliter la mise en place d'une union de l'opposition. D'accord. On peut ne pas pouvoir se mettre ensemble autour d'un sujet A. Mais on peut se mettre ensemble autour d'un sujet B, c'est possible.
D'accord. Merci docteur pour ces éclaircissements. Une réaction proche de Madame Yawa Djibolichegan à propos de l'article de Guardian sur le soutien de UNIR à son homologue du Gabon. Je lis, Madame Yawa Djibolichegan et Monsieur Akleso Acholi sont allés au congrès du Parti démocratique gabonais dans le cadre du Parti UNIR. Ils sont allés représenter le président national du Parti UNIR à cette investiture. Et c'est pourquoi l'information sur l'activité a été relayée par le site du Parti UNIR et non le site du Parlement. Madame Tchégan est militante du Parti UNIR et trésorière générale du parti. Donc, une réaction qui vient d'une personne proche de Madame Yawa Djibouri Tchégan.
C'est sans commentaire.
Sans commentaire. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est l'heure de passer, de donner des cartons.
Attends, d'accord. Moi, j'ai un plaidoyer.
Oui, Ambroise,
dont on n'a pas discuté ici. La route de Ségbétu, c'est une route qui a été refaite. C'est bien, on a félicité le gouvernement. Mais que le gouvernement fasse en sorte qu'il y ait moins d'accidents en élargissant, ne serait-ce que. On a laissé tellement de mètres de côté, et la route est restreinte. Il y a trop de monde dans ce quartier. Que ce soit Sagbado, Wangomé, Ségbé et Aklémé. Tout le monde converge sur la route là, à la douane. Donc, qu'on essaie de faire juste, ne serait-ce qu'un mètre, ou 1,50 m de deux, ils ont la possibilité de le faire.
D'accord. Peut-être penser aussi au Dodan, ça peut ralentir.
Au Dodan aussi, et à l'électrification, à l'éclairage public.
D'accord.
De par endroit, il y a l'éclairage. Maintenant, la nuit, c'est trop d'accidents.
D'accord. Merci, Michel Tchadja.
Oui, comme on est dans le domaine des infrastructures, j'avais lancé un coup de gueule la dernière fois, il y a de cela deux semaines. Je reviens là-dessus.
D'accord, rapidement.
Le début de la route qui commence au niveau du marché de l'Egbacito qui va à Michintove, Covier, je pense que Ambroise Pondio le sait bien, puisque c'est la route qui mène chez lui également, chez ses parents. Le début de cette route-là, ma foi, ce qui se passe là-bas, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui convergent, en tout cas, de Covier, de Michintove vers Lomé, et ils savent de quoi je parle. Il faut que quelque chose soit fait au début de cette route-là, parce qu'il y a un trou vraiment qui rend la circulation très, très, très difficile. Ça passe. Le second aspect, c'est que
rapidement.
Je voulais dire que les dirigeants, en tout cas l'équipe dirigeante de Sunu Bank n'a qu'à prendre des dispositions pour alléger les difficultés à ses clients au niveau de Agoué-Nivé, en face du commissariat d'Agoué-Nivé, parce que vous pouvez passer toute une journée, si vous avez 5 000, vous pouvez passer toute une journée, vous n'êtes pas servi. C'est vraiment difficile. Ça fait plus de 3 mois que nous observons cette situation. Il faut que le DG de Sunu Bank vraiment trouve une solution à cela.
D'accord. Carton?
Non, je n'aime pas de carton.
D'accord. Ambroise Pondio, carton?
Oh, un carton, s'il doit y avoir un carton, c'est forcément à Dago, Dago Yabré, le président de la CENI, un carton jaune.
D'accord.
Pour bien refaire les choses, parce que les élections, ce n'est pas pour lui, ni pour le Parti Uni, mais c'est pour tout le peuple togolais.
D'accord. Alors, puisque nous sommes dans les plaidoyers, lancer un cri de cœur à l'endroit du gouvernement par rapport à la route Sokodé-Tchamba, qui traîne plutôt Sokodé-Bassa, qui traîne depuis bientôt 2 ans. Voilà.
Voilà.
que ça soit accéléré. Parce que ça, j'ai eu des informations qui a beaucoup d'accidents sur la route.
Ah oui.
Voilà. Merci, docteur Georges-William Cuesson, d'être passé dans cette émission.
C'est nous qui vous remercions. Merci de nous avoir invités.
À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Jérôme Akucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.
L'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.